à du travail temporaire, à de la modulation du temps de travail qui endommage les conditions de travail des personnes qui étaient là, ce qui s'est produit. C'est-à-dire, on regarde l'augmentation de valeur ajoutée qu'a permis l'entreprise en recourant à ce type de mesures. Donc, on va afficher une augmentation de la valeur ajoutée, mais on ne va pas mettre en face de la valeur ajoutée le coût qu'il y a eu, le coût de, je dirais, de dégradation du petit capital social qu'il y avait dans l'entreprise, c'est-à-dire les effets, par exemple, dommageables qu'il y a eu sur la santé des personnes. Je pense à une enquête dont les résultats avaient été pas mal diffusés en France, qui avait montré donc le licenciement, enfin qui avait montré de manière scientifique que le licenciement avait réduit l'espérance de vie des personnes en Suède. Et puis il y a des enquêtes françaises qui l'ont montré également. Voilà, je trouve les problématiques qu'en face de la valeur ajoutée que va produire l'entreprise, on ne mette pas, par exemple, la mortalité des salariés qui étaient chez elle auparavant a augmenté. Donc voilà, il me semble que le problème, que la question, que le défi, ça serait d'arriver à mettre en face de la production de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, eh bien, une dégradation sur un compte de capital qui peut être un compte de capital naturel ou un compte de capital social. Et pour l'instant, eh bien, on fait comme si tout ça n'avait aucun effet, c'est-à-dire comme si de la production de l'entreprise, la valeur ajoutée, était nette et que le reste passait par pertes et profits. Alors bon, je reviens pas sur le fait en effet qu'on peut pas le concept de capital social qui avait été utilisé dans un autre sens par Putnam. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un rapport de l'OCDE en 2001, un rapport assez intéressant, qui revenait sur la différence entre PIB et bien-être, qui admettait qu'il y avait des différences entre les deux concepts, et qui disait qu'il fallait tenir compte des autres capitaux, le capital naturel, le capital humain. Et en parlant de capital social, il reprenait la définition de Putnam et pas cet autre que moi j'aimerais bien promouvoir. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on voit bien qu'on tombe alors sur des problèmes techniques. Comment suivre les évolutions d'un tel patrimoine général, d'un tel capital? Il faudrait disposer d'un recensement. Il faudrait qu'on soit tous d'accord sur les éléments de ce recensement, sur ce qui compose notre patrimoine. Et puis, on sait qu'on tombe après sur des questions compliquées. Est-ce qu'il faut garder le PIB et puis, à côté, développer des indicateurs de stock des différentes ressources? Est-ce qu'il faut des indicateurs multiples ou synthétiques? Est-ce qu'il faut tout monétariser ou pas? Tout ce qu'on voit, c'est quand même qu'on doit pouvoir montrer, à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs, qui est coûteuse en ressources naturelles et, je dirais, en ressources humaines. Alors, depuis, je crois que c'est en 2001, comme on avait commencé à travailler avec Jean Gadret, et puis d'ailleurs aussi avec Bernard Guibert, qui est là, on était un petit groupe à essayer de faire avancer ces sujets. Gadret et Florence Janicatrice ont réalisé un rapport pour la DARES pour montrer quand même que notre pays était assez en retard, c'est leur conclusion, que notre pays était en retard du point de vue de la production d'indices alternatifs au produit intérieur brut, alternatifs ou complémentaires, et donc, et que notamment aux États-Unis et au Canada, ben les choses avaient quand même beaucoup avancé. Alors je vous cite quelques-uns de ces indicateurs. Il y a évidemment l'indicateur du PNUD, hein, l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui est fabriqué donc par le PNUD, qui le commande dans son rapport annuel sur le développement humain dans le monde. Et vous savez que cet indicateur, c'est une moyenne de trois indicateurs, le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'instruction. Et puis après, le PNUD a rajouté d'autres indicateurs, par exemple l'indicateur spécifique de développement humain, l'indicateur de pauvreté humaine. Alors, j'ai pas photocopié les tableaux, mais on arrive à des tableaux assez intéressants où, en quelque sorte, le palmarès des pays est un peu renversé selon que l'on compare le classement par l'IDH, et notamment on voit que en matière de pauvreté et d'indice de développement humain concernant la pauvreté, eh bien les pays qui s'en tirent le mieux, qui sont dans les premiers rangs, ce sont tous les pays du Nord du fait de leur relative faible différence de revenus. Voici aux États-Unis l'indice de santé sociale des Meeringhoff qui procédait un peu autrement. Il avait 1, 2, 3, 4, 5 à peu près 16 il prenait 16 critères pour composer un indice de santé sociale. Alors il raisonnait par par cycle de vie et donc un certain nombre d'indicateurs sur les enfants, sur les jeunes, les adultes et les vieux et puis à tout âge, avec notamment par exemple le nombre de crimes, la mortalité infantile, etc. Un paquet pour sortir donc ce nouvel indice. À partir donc des années 90, ils ont vraiment tous une caractéristique commune, c'est qu'on les compare à la courbe du PIB et on a toujours une courbe du PIB qui continue d'augmenter et une courbe d'un indice plus synthétique, plus large, qui a tendance en général soit à stagner, soit à tomber. Donc ça c'était le celui-là. Donc celui-là c'est bien celui des Meeringhoff, hein, l'indice de santé sociale. Alors il y en a eu un troisième qu'on a bien visé. On avait invité les auteurs Osberg et Sharp à la DARES à venir exposer. Hein, ils avaient fait un indice de bien-être économique sur 6 pays de l'OCDE et dans un numéro de Travail et Emploi en janvier 2003, on les a invités, on a fait un débat avec eux sur le fondement de cet article. Donc eux, ils proposent en prenant en considération 4 composants, la consommation, les stocks de richesses, l'égalité et la sécurité économique. Chacun de ces 4 domaines fait l'objet de 3 ou 4 indicateurs et puis donc il y a une pondération qu'on feront varier. Alors c'est quand même un indice très intéressant parce que vous voyez, donc on garde évidemment la consommation, mais on va y rajouter quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de rajouter, qui est le stock de richesse, et puis des choses plus classiques sur l'égalité, et puis la dernière composante est également très très intéressante, hein, sur la sécurité économique, parce que ce qu'il regarde, c'est la manière dont les différents risques sont plus ou moins couverts. Et donc il y a risque de chômage, risque économique lié à la maladie, risque de pauvreté des familles monoparentales et risque lié à la pauvreté pour les personnes âgées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la ligne finale, dans la courbe finale de cet indice de bien-être économique, on va pouvoir voir ce qui, de ces 4 composants, tire la courbe vers le bas. Et notamment, là, ce sur quoi ils insistent, c'est sur le fait que l'indice est considérablement tiré vers le bas à cause du fait que les risques de chômage sont de moins en moins bien couverts. Moi, je trouve cette approche très, très, vraiment une des plus intéressantes. Ils racontent eux-mêmes qu'ils ont commencé ces travaux parce que, je crois que c'est Reagan, disait la société va bien, tout va bien, nous nous enrichissons. Et puis, il y avait au même moment un sondage qui montrait que non, les gens n'avaient pas du tout l'impression que ça allait bien, qu'au contraire, ça allait mal et qu'ils avaient voulu donc mettre ça en évidence. Et dans leur démarche, c'est qu'ils partent de l'idée, en fait, de cette idée que j'essayais de développer tout à l'heure, que chaque société dispose bien d'un patrimoine, hein, avec des biens physiques, naturels, culturels, et puis un état donné de santé et d'éducation, et que c'est donc les évolutions de ce patrimoine-là que l'on va suivre. Ça, c'est bien intéressant. Et notamment, il me semble que ça répond de manière très intéressante aux insuffisances de notre propre comptabilité ou même de notre propre comptabilité de patrimoine. Je voulais vous citer ça tout dans un INSEE méthode consacré au patrimoine national en 1984. Le patrimoine mis en œuvre dans les comptes nationaux peut paraître assez restrictif puisqu'il exclut les actifs ou les passifs situés en dehors de la sphère marchande, comme le patrimoine écologique ou le patrimoine naturel ou encore, en fait, la plus grande partie des choses, quoi. Donc là, il y a un effort pour réintroduire. Alors là encore, hein, je vous montre les courbes. Alors ils ont fait ça sur 6 pays, les États-Unis, les pondérations, hein, selon qu'ils donnent les pondérations aux 4 composantes. Vous avez tout en bas la courbe du PIB. Qu'est-ce que je raconte ? pardonnez-moi. Oh. Vous avez tout en haut la courbe du PIB, et puis en bas, selon les trois pondérations différentes, les courbes de leur indice de économique. Et puis, dernière chose, il y a les indicateurs qui procèdent par correction du PIB. C'est un petit peu différent. Donc, Daos. Et donc, on repart du PIB tel qu'il existe, et puis on ajoute des choses, par exemple la valeur du loisir ou du travail domestique, ce qui est très compliqué, et puis on en retire des choses. Voilà, tout ça c'est un peu impressionniste, hein, c'est pour vous montrer. Alors, il n'y a pas que du rapport qui est sur le site de la DARES, Gadret et Janicatrice ont fait un repère qui s'appelle les nouveaux indicateurs de richesse, dans lequel tout ça est beaucoup plus développé. Donc je vais pas plus loin. Juste en guise de conclusion ou de piste pour lancer le débat. Hein. Donc, alors on a essayé de présenter ces choses-là toujours à ces quelques-uns dans un certain nombre de débats. Je me souviens d'un débat qu'on avait eu avec Gadret, avec le directeur de l'INSEE, des gens de l'OCDE, et puis on s'était fait complètement. Vraiment, on nous avait dit que c'était pas la peine de continuer, que ça n'avait aucun intérêt et que tout ça était absurde. Et notamment, et c'est des critiques qui ont été faites très souvent à ce genre de travaux, hein, que tout ça sortirait des élucubrations d'un cerveau unique et que c'est pas scientifique parce que lui, c'est plutôt telle ou telle chose qui est intéressante, etc. Problème d'agrégation des préférences individuelles et toute la chose. Alors, moi, je pense qu'au contraire, c'est ce qu'on avait répondu. Ce qui est très intéressant, c'est précisément pour en discuter et pour se mettre d'accord. Alors, j'avais transmis à Carlo un petit texte qu'on avait fait avec des gens avec lesquels on avait travaillé là-dessus, un groupe qui s'appelle Utopia, et où en effet ce qu'on proposait, nous, c'est qu'il y ait des débats publics pour discuter des choses à rentrer dans ce type d'indicateur, et puis qu'une fois qu'on se serait mis d'accord, il y ait une présentation à l'Assemblée chaque année d'un rapport sur le développement à partir de ces indicateurs. Moi, ce qui me semblerait assez important maintenant pour continuer à avancer, parce que cette idée est tombée un peu à l'eau, hein, ce qui me semblerait important, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver des indicateurs micro au niveau de l'entreprise qui mettent en évidence ce que j'ai essayé d'appeler ce capital social, donc. Ce qui commence un peu à être fait, par exemple, quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, c'est bien ça qu'on essaye de faire quand on le mesure, c'est-à-dire de trouver des indicateurs pour mettre ce qu'on appelle capital social en évidence. Il faudrait aussi des indicateurs macro. Et puis, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à mettre tout ça en résonance, c'est-à-dire voir, comme je disais tout à l'heure, comment une entreprise au cours de sa production peut influencer, peut déterminer les évolutions à la fois de son petit capital et puis du plus grand capital, du plus grand patrimoine collectif.